Bonjour à tous, c'est la rentrée, un moment excitant, non? C'est l'heure des espoirs, de certains changements exaltants, ou bien de la reprise des habitudes, et les deux sont bien, les deux peuvent satisfaire. Deuxième saison, donc, pour les neiges du Kilimandjaro, le titre de l'émission. Je souhaite égoïstement que l'émission soit aussi agréable à préparer et à faire que l'an dernier, et évidemment, que vous ayez plaisir à l'entendre, non mieux que ça, à l'écouter, ce qui est très différent.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Cette phrase étrange, c'est l'exergue de la nouvelle d'Ernest Hemingway du même nom, Les neiges du Kilimandjaro. Et pourquoi est-ce la phrase qui commence chacune de nos émissions? Parce qu'on se demande, Hemingway se demande, pourquoi le léopard a pris un tel risque? Pourquoi est-il allé là-haut, si haut, sur les neiges glacées du Kilimandjaro? C'est une question que j'aime poser à nos invités, quels qu'ils soient. Pourquoi vous êtes-vous dépassé? Pourquoi êtes-vous allé plus loin que ce que normalement vous auriez dû faire? L'invité d'aujourd'hui, c'est Daniel Lord. Cher Daniel, avant de voir en détail ce qui a été votre carrière, au fond, quel est le sommet que vous auriez aimé atteindre et que vous n'auriez pas atteint?
Ah, que j'aurais aimé atteindre, oui. Être un grand écrivain.
C'est vrai, oui. Si on a un regret, c'est celui-là, ne pas avoir...
J'aurais aimé être un très grand écrivain.
C'est pas simple.
Non, mais j'ai écrit beaucoup de livres, mais je n'ai pas atteint ce que je voulais.
Quel est votre écrivain préféré? C'est pas facile comme question.
Mon livre préféré.
Vos écrivains préférés, quels sont-ils au fond?
Oh, ben ça, je suis incapable de
c'est
vous
du français,
dire.
C'est de l'étranger.
Évidemment, pour commencer, quels sont mes grands écrivains? Les grands écrivains. Je les cherche, je pense à...
Je sais pas, des gens classiques comme Flaubert ou des gens plus modernes?
Flaubert, évidemment. Mais c'est peut-être la timidité, je ne trouve pas les noms.
Ça viendra, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, nous vous recevons aujourd'hui pour un livre, justement, avec un titre qu'il va falloir expliquer. Je n'ai que 5 minutes à vous accorder.
Oui. Mais
c'est raté pour aujourd'hui, parce qu'on va rester ensemble pendant 1h20. Donc c'est un petit peu raté, votre objectif.
Oui, je sais pas, j'avais dit ça en riant à quelqu'un, il m'a dit c'est un bon titre.
Oui, c'est pas mal, il y a une vraie raison qu'on expliquera tout à l'heure. Tout au long de l'émission, ça n'a pas de rapport direct avec vous, nous écouterons des extraits, des répliques cultes de Jean-Paul Belmondo. Pourquoi? Parce que demain, ça fera 5 ans que ce personnage marquant de la culture populaire française nous a quittés, quelqu'un que j'admirais comme beaucoup de Français, comme vous j'imagine.
Évidemment.
Vous l'avez peut-être même rencontré et connu personnellement, je suppose.
Je crois que j'ai rencontré, oui.
Un personnage marquant, tous ses films ont bercé nos vies et ça m'a paru agréable, une espèce d'hommage, d'écouter une dizaine de moments clés de la carrière de Jean-Paul Belmondo qui commençait, vous en souvenez, avec À bout de souffle.
Si vous n'aimez pas la mer... Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Voilà, ça surprenait beaucoup à l'époque. C'est la première apparition auprès de Belmondo au cinéma. Il voulait se consacrer au théâtre. Et puis un jour, ce Suisse bizarre, comme il l'a dit lui-même, lui a proposé de faire ce film incompréhensible, mais qui est devenu culte et qui a lancé sa carrière à bout de souffle. Daniel Lord, qui êtes-vous? Au fond, comment décrirez-vous en quelques mots votre carrière? Si on vous demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie, que dites-vous?
Je dirais que c'est une carrière qui est venue dans ma vie par hasard, mais je ne savais pas que c'était exactement ça que je voulais.
Carrière donc dans la presse, hein, pour resituer, presse écrite et radio, essentiellement presse écrite.
Je suis tombée dans la presse par hasard, j'étais d'abord secrétaire, et un jour, un journaliste qui devait faire un papier, naturellement, n'avait pas apporté son...
On y reviendra plus tard, parce que j'ai l'extrait, on va reparler. Mais je voulais de manière un peu générale, donc
en
si
général,
vous définissez une femme de presse.
J'ai été enchantée d'être dans la presse, où je suis tombée absolument par hasard. Et d'ailleurs, je suis tombée dans une carrière par hasard. Je ne savais pas que je ferais une carrière.
Quand vous aviez une quinzaine d'années, qu'imaginiez-vous devenir?
Une femme qui plairait aux hommes.
C'est un but dans la vie, ça? Et pardonnez-moi, ça a été réussi? Cet objectif a été atteint?
Un peu.
Bon, parfait.
Autant que je pouvais.
Alors, vous m'étonnez en me disant ça, parce que tout au long de votre livre que j'ai lu avec plaisir ces jours-ci, je trouve que vous êtes une espèce de précurseur du féminisme. Vous défendez beaucoup la cause et le rôle des femmes dans ces milieux-là. Et là, tel que vous présentez, c'est autre chose. C'est la femme qui souhaite plaire aux hommes.
Oui, c'était ça au départ. Et je crois que c'est chez beaucoup de femmes.
Quand même.
Même les femmes qui... Quoi, être des grandes travailleuses? Dès qu'elles plaisent à un homme, elles sont contentes. C'est la grande histoire d'une femme.
C'est vrai.
Et des hommes et des femmes, c'est de se plaire tout de même.
Ben, heureusement, oui.
Heureusement.
Mais vous d'ailleurs, enfin, je ne veux pas empiéter sur votre vie privée, mais je sais que vous avez perdu, pardonnez-moi de parler de vous de manière intime, il y a 2 ans, l'homme de votre vie.
Oui,
avec
c'est
qui
ça,
vous avez
avec
passé...
qui j'ai vécu Plus de 50 ans.
Incroyable, quelle une belle durée de nos jours.
On était très contents ensemble. Mmh. On était libres. Chacun, ça veut dire qu'on vivait ensemble, mais enfin, peut-être qu'on a fait des petits voyages extérieurs.
Nous n'irons pas plus loin.
Non, mais c'était une vie très agréable et je l'aimais beaucoup.
Et oui, j'imagine le vide qu'on ressent. Enfin, comme
oh bah, c'est-à-dire que...
Pas de mots.
Oui, c'est un vide total.
50 ans ensemble.
54 ans.
Mon Dieu.
C'est immense.
C'est immense.
J'avais 34 ans quand j'ai rencontré. Enfin, je ne veux pas dire mon âge, que on n'a qu'à faire des comptes.
Oui, mais honnêtement, vous ne vous en cachez pas. Je le vois partout, votre âge. Je ne vous pose pas la question parce que j'étais bien élevé, mais je le vois partout, votre âge. Donc, il est écrit.
Oui, il est partout.
On le dit ou on ne le dit pas?
Et je crois qu'il est partout parce que je suis encore vivante.
Bah oui.
Et en général, les gens sont morts.
Bon, n'exagérez pas, mais enfin, oui, ça peut arriver, en effet. Donc, quel est le poste hiérarchiquement, enfin, en termes de responsabilité, le plus élevé que vous ayez atteint? C'est à Marie-Claire?
Bah, j'étais rédactrice en chef.
C'est ça.
C'était élevé. Mais je n'ai pas aimé ça.
Ah bon?
Je n'ai pas aimé diriger. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on dirige, on perd ses amis.
Vous trouvez?
Mais oui. J'avais beaucoup d'amis, je m'amusais bien. C'était des amis amusants, intelligents, drôles, spirituels. Et à la minute même où j'ai dirigé, c'était fini.
Ah bon? Mais alors, est-ce que ça valait la peine, finalement?
Comment?
Est-ce que ça valait la peine, du coup? Est-ce que cette carrière valait la peine de perdre des amis?
Non.
Ah, donc des regrets, alors?
J'ai aucun regret, mais j'ai aucun regret de ma vie. C'est-à-dire que c'était amusant de diriger, mais j'ai quand même remarqué qu'on perd ses amis. Les gens ne sont plus les mêmes avec vous.
Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déplaire? Qu'est-ce qui change?
Exactement. Ils se sentent maintenant avec quelqu'un qui est supérieur à eux, donc ils perdent leur spontanéité.
On y reviendra tout à l'heure, mais plus détaillé. Mais après ce grand moment chez Marie-Claire, vous avez fait aussi ponctuellement de la radio. Comment est-ce que la radio est arrivée dans votre existence? Comment la radio est-elle arrivée à vous?
Oh, je ne m'en rappelle absolument pas. Je crois que j'ai interviewé quelqu'un et que ça a plu et qu'on m'a demandé de recommencer.
Mais dans votre livre, vous en parlez avec beaucoup d'émotion. On a l'impression que vous avez presque préféré ça.
Oui, j'ai adoré la radio.
C'est vrai?
J'ai adoré la radio parce que d'abord, je croyais que parler était plus facile qu'écrire. Mais ce n'est pas vrai. Parce que je préparais ce que j'allais dire.
Bien sûr.
Mais au départ, c'est quand même plus facile. Parce que si jamais on se trompe, on peut se rattraper.
Oui, en direct, on peut toujours
se rattraper. Et puis c'est quand même délicieux de parler.
Vous aimiez, cette émission de radio, c'était, je crois, s'appelait Un homme et une femme.
C'est ça.
Vous l'animiez avec l'écrivain Guy Descartes. On l'écoutera d'ailleurs brièvement tout à l'heure, Guy Descartes. Donc c'était une émission assez précurseur, si j'ose dire, puisqu'on parlait des rapports hommes-femmes.
Absolument, c'était tout à fait précurseur, parce qu'on n'avait pas l'habitude de ce genre d'émission. Et Guy Descartes arrivait là avec une désinvolture absolue. Moi, j'étais morte de peur et de trac. Et finalement, je m'en tirais pas mal. Il passait son temps à me demander, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Et alors, je le vouvoyais.
Et lui, y compris sur l'antenne?
Ah, naturellement. Il me tutoyait.
Non, mais c'est gênant comme situation.
Et je le vouvoyais.
Vous trouvez pas ça gênant?
Et j'arrivais pas à le tutoyer.
Non, mais lui, il fallait qu'il cesse.
Ah, lui, il s'en foutait.
Ah bon?
Il était très content, très sûr de lui.
Mais ça donne un côté un peu alors méprisant, quoi,
c'était
par rapport.
Le roi.
Ça vous confine à un rôle un peu de potiche, si je permets.
Oui, un peu une potiche. Mais
c'est un peu énervant.
Potiche. Une potiche pas bête.
Mais vous l'aimiez, ça allait quand même entre vous, il n'y avait pas de tension.
Non, jamais, jamais.
Vous vous souvenez combien de temps ça a duré cette émission? Combien de saisons? Une dizaine d'années, je dirais, peut-être un peu moins.
Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Ah, ça a duré longtemps. Mmh. Et j'aimais beaucoup ça. J'ai beaucoup aimé la radio.
Oui, je comprends, c'est un média qui permet en plus au public de rêver un peu.
C'est magnifique la radio.
Voilà, nous sommes avec Daniel Lord, on a poser quelques repères. Les grands moments de sa vie professionnelle, ça a été ça. Marie-Claire, la rédaction en chef,
oui.
La radio, qu'elle a adorée. On va suivre, dérouler votre vie, votre carrière ensemble. J'ai bien compris ça. Et aujourd'hui, vous êtes à la radio aussi, ça tombe assez bien.
Et c'est très agréable.
Et en plus, sans responsabilité, puisque vous laissez
exactement.
Porter.
Exactement, je n'ai aucune responsabilité, mais j'en ai quand même, parce que dès qu'on parle, on devient responsable.
Bah, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne
faut pas dire trop de bêtises.
Un peu quand même, mais pas trop.
Un peu.
Tout au long de l'émission, je vous l'ai dit, donc on va parsemer cet hommage que j'ai voulu rendre. Et comme beaucoup de Français, j'adorais Jean-Paul Belmondo. Sa disparition m'a fait de la peine. C'était il y a 5 ans, demain, ça fera donc 5 ans. Voilà un extrait d'un film absolument marquant, le dernier grand film de Belmondo. C'était Le Louche, itinéraire d'un enfant gâté. Et cette scène mythique où il explique à Anconina comment ne pas s'étonner.
Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois?
Oui.
Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré?
Oui, bien.
Tu sais que ton père est... était avec le petit pompiste avant?
Quand même un assez grand moment de Belmondo qui est formidable dans, dans ce film, Itinéraire d'un enfant gâté. Un film à la louche, c'est-à-dire il y a un peu ni queue ni tête, c'est filmé de manière très naturelle. Certains n'aiment pas ce style, moi je trouve que c'est parfois très réussi. Il a au moins le courage d'entreprendre, c'est un artiste qui se renouvelle sans cesse et j'aime beaucoup ce qu'il a fait, notamment avec Belmondo ici. Voilà, tout au long de l'émission, une dizaine d'extraits marquants de carrière Jean-Paul Belmondo. Revenons à notre invité, Daniel Lord, qui a été entre autres dans sa vie rédac-chef, comme il le disait, de Marie-Claire, qui a également fait de la radio, mais votre vie a commencé de manière un peu étrange. Vous parlez dans votre livre, que j'ai lu avec intérêt, vous parlez de vos grands-parents qui possédaient des forêts.
Oui.
Doit-on en déduire, vous êtes une famille extrêmement aisée à l'époque?
Oui, une famille très aisée.
D'accord.
Mais toute ma famille paternelle possédait des forêts, la forêt d'Amboise, la forêt de Conches.
C'est incroyable ça. Et ils l'exploitaient?
Il avait exploité, il y avait des forestiers.
D'accord.
J'ai vécu beaucoup dans la forêt. Oui, c'était des... Et puis ma famille maternelle était une grande famille aussi.
D'accord.
C'était l'opérier. Le frère de ma mère a fait l'opérier.
Ah, dites-moi.
À Leuven.
Et cette famille-là n'a pas été un levier pour entrer dans votre carrière? Ça ne vous
non,
a pas aidé?
Non, parce que vous savez, les femmes à cette époque ne comptaient pas. Les femmes se mariaient, avaient des enfants, il n'était pas question de faire une carrière.
D'accord.
Il n'est pas question même de travailler.
Oui, beaucoup de gens.
Parce que quand j'ai voulu travailler à l'âge de 18 ans, tout le monde a poussé des hurlements. Mmh. Et j'ai voulu travailler.
Votre famille vous a permis d'avoir des conditions d'enfance au départ, donc très agréables, une vie matérielle aisée, des relations familiales plus compliquées, on verra ça tout à l'heure. Mais arrive quand même une tragédie, parce que vous êtes né dans les années 30, votre famille est une famille juive, et donc...
La guerre, comment
ça se passe pour vous habiter donc dans la région parisienne? Vous avez donc quitté Paris assez vite?
Ça se passe qu'on se cache toujours, qu'on ne dit jamais qui on est, qu'on ne change de nom.
Donc vous quittez Paris?
Nous quittons Paris. Et nous allons nous trimballant un peu à travers la France. On avait changé de nom.
Ah oui?
Ben évidemment.
Est-ce que j'ai le droit de vous demander quel est votre nom de jeune fille?
Oui, je ne l'ai pas dit depuis... Je m'appelais Hirsch.
Ok, vous ne le dites jamais, c'est la première fois qu'on en parle. Ah bah écoutez, je suis confus.
Et je suis devenu Saint-Paul.
Bonjour Daniel Hirsch.
Voilà, et je suis Daniel Hirsch.
C'est ce que vous sentez au fond de vous?
Oui.
Bien sûr. Lord, c'est le nom de votre mari, plus tard aux États-Unis, on verra.
Et mon mari, ah ben ça c'est autre chose, Lord.
Bien sûr. Donc voilà, donc votre famille change de nom, vous passez en zone sud.
On passe en zone sud, et puis surtout on a tout le temps peur.
Vraiment?
Ben oui, on a tout le temps peur de se faire repérer comme juif.
Bien sûr.
Vous savez, on était embarqués vite fait.
Je me souviens, d'ailleurs j'ai noté un extrait qui explique ça de manière très claire. Vous dites que vous faites passer pour catholique.
À tout le
temps. Et il y a ce passage assez touchant où vous dites « L'église était pleine de juifs qui faisaient semblant d'être catholiques. »
C'est ça.
« Nous faisions tous semblant, et ce semblant avait une odeur de cire et d'encens, de vieux bois et de pierres froides. Nous avions peur d'être pris, peur d'être emmenés. On surveillait tout. L'accent, la manière de se signer, l'instant où on s'agenouille, on ne devait pas hésiter. L'hésitation, c'était la perte. »
Exactement.
Vous avez ce sentiment de peur, réellement?
Naturellement, parce qu'il fallait continuellement jouer la comédie. Et d'ailleurs, c'était une grande leçon, parce que j'ai appris à jouer la comédie.
Je ne minimise pas l'inquiétude, mais vous avez l'avantage d'être en famille complète. Vous n'étiez pas séparé de vos parents à ce moment-là.
Non, mais j'étais quand même pas avec mes parents. Mon père avait été fait prisonnier de guerre.
Ah, pardon.
Oui, oui, et il avait resté 5 ans prisonnier de guerre.
D'accord, votre père n'était pas là.
Non, et ma mère nous avait mis en pension, parce qu'elle ne pouvait pas très bien s'occuper de nous. Donc tout ça a été très difficile.
Je crois avoir compris, j'ai un léger doute, si je me trompe, rectifier. Vous étiez en pension notamment près de Bandol.
Oui, et si j'ai bien, Sanary.
Voilà, et si j'ai bien compris, quand vous avez quitté la pension, peu de temps après, les enfants ont été arrêtés.
Toutes les enfants ont été emmenés. Ma mère a eu le nez, le flair de nous emmener avant que tout le monde soit arrêté.
C'est incroyable.
Incroyable. Ils ont tous été emmenés. Donc nous avons été en Savoie, près de la frontière suisse.
Oui, à Morzine.
À Morzine pour pouvoir aller en Suisse, parce que c'était l'obsession des Juifs, passer en Suisse.
Mais c'était très très difficile.
Mais c'était très difficile, mais on passait à pied, on allait à pied.
Mm-hmm. Alors pourquoi vous n'êtes pas réfugié en Suisse complètement alors au fond? Pourquoi ne l'avez pas fait?
Parce qu'au fond, ma mère voulait rester en France.
Vous pensez?
Oui. Elle voulait rester en France, mais enfin être près du sauvetage.
C'est ça.
Et on est resté en France toujours. Donc... Mais une partie de ma famille était en Suisse. Hein.
Bien sûr.
Donc, mes oncles étaient en Suisse.
Encore une fois, je ne minimise pas l'inquiétude de ces années-là, très difficiles, mais au fond, le danger, à part la pension où les gens ont été arrêtés après votre départ, au fond, vous êtes passé à travers assez facilement. Vous n'avez été jamais à quelques doigts du vrai danger.
Non, jamais, avec une chance invraisemblable.
Notamment à Morzine, où il s'est passé, je crois, quelque chose pendant que vous promeniez
à ski. Oh là là ! À Morzine, il s'est passé quelque chose. Quand tout à coup, les Allemands sont arrivés, j'ai dit à mes frères, il faut qu'on s'enfuit. Je vous ai raconté ça.
Ben, vous ne me l'avez pas raconté à moi, mais vous l'avez raconté dans le livre.
Non, mais je l'ai raconté dans le livre.
Ben, faisons-le maintenant, oui.
Vous voulez que je le raconte ?
Avec joie.
Bon. Nous étions au pied d'une montagne, la montagne où nous faisions du ski, et tout à coup, on nous tire dessus. Et je dis à mes deux frères, les Allemands sont en train de nous tirer dessus, il faut partir immédiatement. Et mes deux frères m'écoutaient que je dirigeais. J'ai dit, on remonte la montagne. On remonte, tant pis. On est remonté à pied, 2000 mètres. On est arrivé à minuit, à 11h30 en haut de la montagne.
Incroyable. Vous aviez donc une dizaine d'années à peu près, vous, en gros.
J'avais quel âge? 12 ans.
C'est ça, il me semble. Hein. Enfin, vous le savez mieux que moi, mais je pense que vous avez...
Oui, non, mais c'était... Attendez, je suis née en 32.
Ah oui, bah, vous deviez à 11 ans, oui.
Bah,
oui,
c'est ça. Et mes frères ont suivi, évidemment. Et quand nous sommes arrivés en haut de la montagne, c'était la nuit, évidemment, mais on a sauvé notre peau.
Bien sûr. Là, vous avez eu peur.
J'ai eu peur.
Mais ça a été un moteur. Vous avez pris la décision.
C'est la peur. Moi, c'est toujours la peur qui me donne du courage. Je n'ai pas de courage naturel, j'ai le courage de la peur. Et comme j'ai souvent peur, j'ai beaucoup de courage.
Mais bien. Oui, ben c'est un grand classique. Le vrai courage, c'est de vaincre sa peur. Celui qui est inconscient n'a pas de mérite. Est-ce que cet aspect juif de votre famille, est-ce que ça compte pour vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pratique?
Oui, nous étions.
Est-ce que vous êtes croyante?
Pas du tout. Ni pratiquante, ni croyante. Non, pas croyante. Mais une famille très juive. Et j'aime beaucoup ma famille et j'aime beaucoup que j'ai ce respect du passé, de leur passé juif. Et j'ai le respect de notre peur juive.
Vraiment, vous employez l'expression la peur juive?
Ben oui, parce qu'on a eu très peur très longtemps. C'est très dur d'être juif.
Vous trouvez? En parlant de cette période affreuse, oui, mais en général aussi? Là, actuellement, par exemple, l'atmosphère...
Non, mais enfin, je ne le dis pas. Je ne dis pas que je suis juive. Je ne le dis pas. C'est encore un mot dangereux.
Vous
pas dangereux, mais on ne sait pas.
Bah, actuellement, en France, l'antisémitisme qui n'est plus le même hein, du tout,
mais
qui n'est plus celui d'extrême droite.
Mais on ne sait pas à qui on a affaire.
Vous savez très bien qui actuellement fait profession d'antisémitisme. Ce ne sont pas les gens de l'extrême droite.
Non.
C'est d'autres communautés françaises plus nombreuses.
Mais en général, je me tais sur ce plan.
Vous respectez les fêtes juives, par exemple?
Non. Je n'ai pas du tout une famille pratiquante, mais c'est une famille très juive. C'est très étrange, qui ne pratique absolument pas, mais qui tiennent à leur judaïcité. Ça a été Israël, ça a été... Tout ça est très important.
Est-ce que votre vie maritale est liée à ça? Est-ce que vous avez
non.
essayé des...
Non, ça ne comptait... quand même.
C'est un hasard. Oui, j'allais vous le dire, il me semble. Hein. Votre mari,
Rosenfeld.
Mais c'est un... Rosenfeld. Mais c'est un hasard.
C'est un hasard pur, mais peut-être que ce n'est pas tellement un hasard. J'en sais rien.
Nous sommes avec Daniel Lord, qui a été longtemps rédacteur en chef de Marie Claire, qui a fait de la radio, qui a fait ses débuts chez France Dimanche, qui a une longue carrière dans les médias. Et qui publie ce livre au titre assez étrange, je n'ai que 5 minutes à vous accorder. Tout au long de l'émission, on écoute Jean-Paul Belmondo dans ses grands moments. Voici un extrait du Marginal, je crois que c'est Jacques Deray de mémoire, le Marginal. Ce moment où il arrive dans un bar pour retrouver deux truands et écouter comme il leur parle, c'est à mourir de rire.
Georges, oh là 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 là,
ah, t'es le con, oh, regarde-moi ça.
Ah ouais, bah non, je suis d'une maladresse.
Ah ouais, bah, t'as de la place pourtant.
Ah bon petit Georges, vous remettez ça, hein. Ah mes frères, évidemment.
Ça suffit.
Non, vous énervez pas, ils sont calmes. Je me présente, Jordan, commissaire Jordan. Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes.
Ah, c'est quand même délectable de réentendre ça. Vous êtes bien les frères Tourian et Tourian. Quand même, Belmondo, mais quel personnage,
non? Magnifique.
Amateur de jolies femmes, spécialiste du couteau. Voilà, il y a 5 ans qu'il est parti, c'est triste. Tous ses films, heureusement, restent. Quand on est un grand artiste, on laisse des choses derrière soi. C'est l'avantage. Et c'est peut-être pour ça, vous lisiez en début d'émission Daniel Lord, que vous regrettez de ne pas avoir été un grand écrivain. Aussi peut-être pour laisser quelque chose à la postérité. C'est quelque chose qui vous importe?
Non. Je ne crois pas à la postérité. Je crois à la postérité des grands.
Oui, bien sûr.
Des très grands. Mais le présent efface tous les passés.
Soyons très honnêtes l'un envers l'autre.
Soyons très honnêtes.
Quelle que soit votre carrière, qui est une belle carrière, mais vous avez conscience, comme moi, comme 80, que dans 10 ans, 15 ans, les gens ne sauront plus qui vous étiez.
Mais pas dans 10 ans, dans 2 ans.
Voilà.
Dans 3 ans.
Est-ce que ça vous préoccupe?
Non.
Absolument pas.
Absolument pas.
C'est la vie présente qui compte.
Mais oui, parce que je ne suis pas j'ai pas la stupide prétention de croire que mon nom a une importance. Si j'étais un très grand écrivain, j'aurais voulu ça, mais ce n'est pas
au boulot, au boulot.
Oui, au boulot, au boulot, mais non. Et puis c'est le présent compte, vous savez, le passé.
Bon, je ne vais pas faire de la psychanalyse, ce n'est pas mon registre, je n'ai pas cette capacité-là, mais je voudrais qu'on vienne un instant, parce que j'étais stupéfait en lisant votre livre, de voir à quel point vous aviez des rapports difficiles avec votre mère, que vous décrivez comme une femme très belle, très impressionnante, et qui vous dit, j'ai presque du mal à le croire, qui vous répète à plusieurs reprises, tu es moche, tu es moche, tu es
oui,
très
moche. Oui, parce que ma mère était très triste d'avoir une fille moche.
Mais non, mais elle ne vous l'a pas dit comme ça, une mère ne dit pas ça.
Non, mais tout le disait. Elle me le disait si. Elle passait son temps à ne pas être fière de moi. C'était jamais ce qu'elle voulait, j'étais jamais comme elle voulait. C'était très désagréable.
Mais c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Comment est-ce qu'on se construit sans.
Voilà, à ce point-là.
Oui. M'en surlevé grâce aux jeunes gens que je connaissais.
Ah, les hommes, déjà.
Tout de suite.
Mais et vos frères, par exemple, vous entendez bien avec vos frères?
Ah oui, ma frère, j'adorais mes frères et j'adore toujours mon frère qui me reste, très très lié.
Est-ce qu'il avait lui aussi la même impression de votre mère, d'une femme un peu glaciale, un peu distante?
Non, pas non. Mais enfin, j'étais quand même leur mère. J'étais quand même leur mère et j'étais leur sœur qui les faisait rire tout le temps parce que j'étais très drôle. Mm-hmm. Je peux être très drôle, dis-je d'un air sinistre.
Oui, je suis très drôle, vous le constatez.
Dis-je d'un air sinistre.
Mais dites-moi, qu'est-ce que votre mère aurait voulu que vous soyez alors
Qu'elle je sois exactement comme elle.
Elle ne travaillait pas.
Non, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas et les bourgeoises ne travaillaient pas.
Bien sûr.
Elle était d'un milieu aisé. Elle avait des frères qui ont fait l'opère.
Oui, incroyable.
Ça. Le Veyne. Et elle, la question, j'ai oublié.
Qu'est-ce que votre mère aurait souhaité que vous deveniez? Une femme du monde, élégante?
Non, que je sois comme elle.
Bah ça, c'est-à-dire
grande,
ça.
Grande, blonde, aux yeux bleus.
Ah, bah ça, on n'y peut rien.
Et ça, on n'y peut rien. Mais parce que je ressemblais à mon père, elle n'aimait pas forcément mon père.
Mais non.
On l'avait marié. C'était l'époque où on mariait les jeunes filles.
C'est vrai.
On l'avait marié avec mon pauvre père, qui était un homme adorable, mais qu'elle n'aimait pas.
Vous le sentiez, enfant?
Non, je l'ai senti plus tard, quand j'ai vraiment fait la connaissance de mon père, qu'elle m'avait obligé à ne pas aimer et que j'aimais.
C'est touchant, c'est bien. Mais oui. C'est vrai que ce qui est injuste, c'est que finalement, vous en parlez assez peu dans votre livre, vous parlez plus de votre mère,
oui.
qui a finalement peut-être eu un rôle moteur par sa dureté, non, en vous obligeant indirectement à faire autre chose.
Elle a eu un rôle moteur dans son espèce de déception d'avoir une fille comme moi, c'est-à-dire brune, aux yeux bruns, pas grande, elle était grande et blonde aux yeux bleus, elle avait un grand succès. Moi, j'avais du succès parce que je me donnais un mal de chien.
Est-ce que votre mère a vu votre carrière se développer? Enfin, jusqu'à quel âge avez-vous,
oui,
votre
elle
mère
a,
a-t-elle
elle
vécu?
Elle a vu le début.
D'accord.
Elle a vu le début.
Elle n'a pas vu Marie-Claire, non, les postes
non,
importants,
non.
Elle n'a pas vu ça?
Non, ben, elle n'était plus là.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, à ce moment-là, qu'elle était enfin un peu fière de vous quand ça commençait à marcher?
Oui, mais ma mère m'a toujours trouvée intelligente. Elle disait,
ah bah c'est là-bas, c'est bien déjà.
Oui, elle ne me trouvait pas jolie, mais intelligente. J'ai été élevée avec cette phrase. Pas jolie, mais intelligente. Et un jour, j'ai rencontré un homme qui ne me trouvait pas très intelligente. Je me suis dit, alors c'est gay, alors j'ai plus rien. Alors, c'est ni jolie, ni intelligente. Je suis mal partie.
Et alors, cet homme?
Ça s'est arrangé.
Bon, ça me rassure. Vous dites dans votre livre, vous parlez de ses rapports avec votre mère, et vous dites même que vous arrivez une fois en disant « Je suis première en tout !» à l'école, en espérant acheter son affection, si j'ose dire.
Et j'étais première en tout. Et j'étais si fière, si fière.
Mais est-ce qu'elle l'a été? Est-ce qu'elle vous a... Ah, très bien.
Parce qu'elle était quand même gentille. Elle était gentille, ma mère. Elle n'était pas méchante du tout. Simplement, elle était un peu déçue par moi. C'est par le physique.
Daniel Lord, quand on a, et pardonnez-moi cet aspect un peu irrespectueux, quand on a votre âge actuellement, est-ce qu'on pense encore, ou à nouveau, peut-être même à ses parents, beaucoup?
Non. Quand on a mon âge, j'allais dire, on ne pense plus au passé.
Vraiment?
Non. Je me fiche du passé.
Edith Piaf, je me fous du passé,
oui,
non,
ça.
Rien de rien.
Je pense au présent et j'ai la chance d'avoir un présent délicieux parce que j'ai un homme charmant qui est avec moi là, qui m'accompagne dans la vie, c'est-à-dire qui m'aide.
D'accord.
Qui me conduit, qui porte une main, qui s'appelle la scène. Et puis, j'ai des gens adorables avec moi, j'ai beaucoup de chance.
De quoi est faite votre vie quotidienne maintenant ?
Ma vie quotidienne ?
Est-ce que la vie trépidante des médias vous manque ?
Non. Non, la vie trépidante des médias, vous comprenez, les médias...
Bah, ça a été votre vie quand même.
Oui, elle a été ma vie, mais je sais ce que c'est que les médias.
Superficielle, vous voulez dire ?
Non, pas du tout, mais ce n'est qu'un moment.
Ah oui, ce n'est qu'un moment, bien sûr.
Ce n'est qu'un moment. Ce qui compte, c'est l'ensemble de la vie. Et elle n'est pas trépidante, ma vie, mais elle n'est pas ennuyeuse. D'abord, j'ai la chance d'avoir un homme très gentil.
Oui, on a bien compris, oui.
Vous avez compris, j'ai la chance d'avoir aussi des moyens qui me permettent d'avoir des gens qui m'aident.
Bien sûr, ça change tout, en effet.
Mais tout est là. Parce que j'ai vécu avec un homme adorable que j'ai rencontré fauché, et très intelligent, et qui a gagné de l'argent et qui m'a tout laissé.
Ah, finalement.
Et c'est grâce à lui que je vis une vie agréable.
C'est un legs magnifique.
On n'était même pas mariés.
Avec Claude, vous n'étiez pas mariés ?
Non.
D'accord. Daniel Lord est notre invité aujourd'hui, on parle de son livre, il va falloir expliquer le titre, hein. Je n'ai que 5 minutes à vous accorder. Pour ceux qui l'ignorent, elle a été longtemps rédactrice-chef de Marie-Claire, elle a travaillé à France Dimanche, elle a fait de la radio sur RTL, elle a vécu dans les médias et dans la vie parisienne, comme on dit. Tout au long de l'émission, ça n'a pas de rapport direct, on parle de Jean-Paul Belmondo, 5 ans demain, qui nous a quittés. Voici un autre extrait, c'est un film absolument fantastique. Qui l'a fait d'ailleurs ? Est-ce que c'est Henri Verneuil ? Je crois, d'après Antoine Blondin, Un singe en hiver. Le voici dans ce grand moment d'ivresse avec Jean Gabin.
Un million de potes.
Allez, le galop, le divin chauve.
La gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient.
À Manolette, tu es à Linares par le taureau Islero.
Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langsonne.
À Roselito, le plus grand de tous.
Vilain temps, messieurs. Si ça continue, vous allez vous saouler.
Mais quand on est en perme, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu cherches ?
Claire, elle devait me prendre à la sortie des arènes.
Mais c'est de ta faute si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne.
Allez, Claire et moi t'avons invité.
T'occupe la bleusac, j'ai touché mon arriéré de solde alors, hein.
T'en payé avec un billet de train ?
Tiens, je te donne l'aller et je garde le retour. Allez, fais-en autant.
Je peux pas.
T'as pas confiance ?
J'ai pas de billet.
Ah, bah alors là, t'as tort, faut toujours avoir un billet. Au cas, tu comprends, au cas.
Si tu crois m'apprendre, passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça.
Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein, allez, viens.
Alors on est quand même sur un très grand moment, Gabin, je pense que c'est peut-être le moment où il est le plus naturel, le meilleur, d'après Antoine Blondin. Vous connaissez ce film, vous vous souvenez de ce film étonnant sur l'ivresse ?
Évidemment.
Un singe en hiver.
C'était un grand écrivain, un grand acteur.
Mais Blondin est un génie de la plume. Acteur. Et Gabin et Belmondo.
Oh, ben Gabin, c'était un fantastique acteur. Hein.
Bien sûr, il est génial dans ce rôle-là.
Ah oui.
Un succès, alors que c'est quand même un film un peu anarchisant. On vante les mérites de l'alcoolisme, mais les gens ont adhéré.
Oui, c'est ça.
Daniel Lord, on parle de vous aujourd'hui avec ce livre. Alors c'est le moment ou jamais d'expliquer pourquoi ce titre étrange. Je n'ai que 5 minutes à vous accorder. Qu'est-ce qui vous a pris de dire ça ?
Et non, c'est parce que j'étais interviewée par une femme qui est arrivée comme ça, et ça m'agaçait un peu. Je lui ai dit sincèrement, écoutez, je veux bien, mais j'ai 5 minutes à vous accorder. elle a aimé ce mot.
D'accord.
Puis finalement, ça a duré 2 heures.
Bah oui.
Mais 5 minutes. Et elle a gardé ce titre.
Bon, d'accord, c'est resté.
Voilà.
Tout à l'heure, nous parlions de votre enfance, au départ privilégiée et puis rendue inquiétante et dangereuse par l'occupation, parce que d'une famille juive. Bref, la famille, le noyau central de la famille se sort très bien et il n'y a pas de victime parmi vous, heureusement.
Non, il n'y a pas de victime.
Et assez vite, après la guerre, vous partez en pension à Londres. C'est un choix de votre mère ?
Ah non, c'est un choix de ma mère.
C'est elle qui veut vous éloigner ou elle veut vous formater ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi
Les
elle fait
deux.
Ça ? D'accord.
À la fois sous prétexte de me faire apprendre l'anglais, m'éloigner. Mmh. Et finalement, j'ai appris l'anglais.
Bah, c'est déjà une bonne chose, non ?
Oui, mais enfin, c'était très désagréable. Je suis arrivé dans une pension où personne ne parlait français, personne. et je ne parlais pas un mot d'anglais.
Bah, c'est normal, c'est le but d'apprendre.
C'est normal, mais en 3 mois, je parlais couramment anglais.
Oui, donc elle avait réussi finalement.
Elle avait réussi. Il est arrivé une autre Française qui n'a jamais parlé anglais à cause de moi. On parlait, elle parlait avec moi.
Vous dites sur ce passage en Angleterre, une formule qui m'amuse, vous dites deux choses. Vous dites, j'avais horreur de l'uniforme,
horreur.
Mais j'étais ravi d'apprendre l'art de la conversation.
Exactement, que, voilà. Parce que j'étais assise à côté de la directrice et il y avait dans le contrat de cette proximité la nécessité de faire la conversation. En anglais.
Of course.
Of course. Donc, j'ai appris à faire la conversation et ça m'a servi toute ma vie. Parce que je me suis trouvée dans beaucoup de situations difficiles. Enfin, je ne connaissais pas les gens, mais je me mettais dans ces situations parce que j'aimais bien l'aventure humaine. Et finalement, je m'en tirais toujours très bien.
Ben, j'ai l'impression. Donc, avec le recul, contente d'avoir fait ça, finalement, vous considérez que ça jouait un rôle dans votre vie ?
Ça joue un rôle capital.
Cette pension à Londres.
Ça m'a donné une liberté d'être dans n'importe quelle situation.
Donc votre mère a bien fait.
Elle a bien fait.
Même si vous avez un peu pleuré là-bas, d'après ce que j'ai compris au début.
J'ai beaucoup pleuré, et quand elle m'a dit on recommence l'année prochaine, oh c'était affreux. J'ai eu horreur. Je n'ai pas aimé tout ça.
Vous dites que vous avez horreur de l'uniforme.
Horreur.
Alors ça m'amuse un peu parce qu'à part ça, tout au long de votre livre, on s'aperçoit que vous êtes quelqu'un d'assez rigoureux. C'est le moins qu'on puisse dire. Certains vous trouvent même autoritaire
oui,
et un
liberté,
peu sèche.
Rigoureux dans sa liberté.
Mais l'uniforme, est-ce que ce n'est pas, alors je fais l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas au contraire une manière d'être impeccable? Après on est libre, on est ce qu'on veut, mais on a moins un cadre.
Non.
Donc vous êtes contre ça. Certains parlent du retour de l'uniforme à l'école, vous êtes contre.
Oh ben c'est effroyable.
Vous trouvez? Moi je trouve que c'est bien. Mais bon, chacun ses goûts.
Mais non, c'est effroyable parce qu'il faut être libre dans sa liberté. Il faut être ferme, rigoureux dans sa liberté.
D'accord.
Il faut être toujours bien habillé, mais on choisit ses vêtements. On ne vous les impose pas. Il faut être libre. Il faut d'abord être libre.
Est-ce qu'un adolescent de 13-14 ans a les moyens d'être libre?
Ah ben ça a été mon obsession d'être libre. J'ai toujours été libre.
Vous avez réussi, oui.
Oui, j'ai réussi. J'ai toujours été libre, dans n'importe quelle situation.
Après Londres, enfin, je saute quelques années, vous êtes allé à New York. Donc finalement, le monde anglo-saxon vous a quand même intéressé.
À New York ?
Oui.
Je me suis intéressé à quoi ?
Le monde anglo-saxon vous intéressait quand même. Après Londres, New York, vous êtes même marié à New York.
Non, ce qui m'intéressait, c'était l'Amérique. Vous savez, à cette époque-là, l'Amérique, c'était le Graal.
Bien sûr.
Tout, c'était l'Amérique. Donc, il fallait aller en Amérique. Je suis allée en Amérique. Puis j'ai épousé un Américain.
Monsieur Lord.
Monsieur Lord.
Pourquoi
j'ai gardé le nom.
Pourquoi avez-vous fait le choix de garder son nom? Parce que vous n'êtes pas resté marié très longtemps.
Parce que j'ai commencé à travailler en étant encore mariée. J'étais journaliste et je signais Lord. Et c'était un très bon nom.
C'est vrai.
Et j'avais commencé à être un petit peu connue dans le métier, sous le nom de Lord. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un très bon nom. Je l'ai gardé.
D'accord. Ce mariage a été assez bref. Vous êtes rentré en France.
Il a duré 4-5 ans.
Donc on est quoi, en 52, 53, 54,
oui,
quand vous rentrez en France à peu
près. D'ailleurs, je me suis marié pour me marier.
Bon.
Parce qu'à l'époque, il fallait être marié. Mais je savais que ça ne durerait pas.
Ah bon? Il n'était pas très intéressant, Mr. Lord, finalement?
Non, mais il était charmant.
Ah bon, ben c'est bien déjà.
Il est mort
déjà.
À 100 ans.
Non.
Si, il est mort il y a 2 ans.
Vous êtes resté en contact régulier?
Quoi?
Vous êtes resté en contact régulier avec lui?
Non, pas du tout, parce que moi, j'ai une maladie, le passé, c'est le passé. Je ne suis pas accroché au passé.
C'est rare. Mais
quand
c'est
fini, c'est fini.
C'est vrai.
On passe à autre chose.
Vous faites peur un peu, là.
Non. Mais vous ne serez pas le passé, vous êtes le présent.
Tout est relatif. Retrouvons encore, on va reparler avec vous, Daniel Lord, mais je voudrais qu'on écoute encore et toujours. Non, c'est pas Jean-Paul Belmondo, je divague. Ce que je voudrais qu'on écoute maintenant, ça vous concerne directement, c'est un extrait de ces actualités de l'époque, années 50, qui parle du Saint-Germain-des-Prés que vous avez dû fréquenter à ce moment-là, le tabou, tout ça. Écoutez plutôt.
Ciré et bas noirs sont de règle pour une fille, et talons hauts. Qui danse aujourd'hui en ballerine? Pas de gants, vestige d'antique tradition. Beaucoup de daim et de cuir en veste et en blouson. Les jupes exigent beaucoup de métrage en ampleur, mais peu en hauteur. Une règle impérieuse gouverne la chevelure. Le désordre est le fin du fin, pour l'un comme pour l'autre. Pas de chapeau, bien sûr, mais le foulard des belles négligences. Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules. On fume beaucoup dans ce monde plein d'appétit. Des cigarettes et françaises de préférence. Mais on mange vite et peu. Sandwich et lait froid font facilement un menu. Le cinéma est une nécessité vitale et Brigitte Bardot est son prophète. Et l'on danse beaucoup. Pas la valse, bien sûr. Calypso ou cha-cha-cha. Le téléphone est un besoin comme la nourriture et la pensée. Il faut compter, dit-on, une heure de téléphone par jour. Lecture, on lit encore Marcel Proust, mais on abandonne le charmant Prévert.
En réécoutant ce document, sur le fond, parlons-en dans un instant, ce qui m'amuse, c'est que cette voix, je ne sais pas qui c'est, mais je le reconnais, c'est quelqu'un qui doublait, et je reconnais cette voix, c'est lui qui double Kirk Douglas, j'en suis sûr, dans tous ses films, je reconnais absolument sa voix. Ça m'a frappé brusquement, là, on n'y est pas. Bref, ce Saint-Germain, ce Paris des années 50 et quelques, quand vous revenez donc de New York, vous avez quitté Mr. Lord, qui d'ailleurs s'en est quand même bien remis, puisqu'il a vécu jusqu'à 100 ans.
Je vais à Saint-Germain et toutes les nuits.
Vous allez à Saint-Germain tous les soirs.
Tous les soirs.
Vous avez été une vraie noctambule.
Oui. Et j'avais un amoureux qui s'appelait Claude Bolling.
Mais je sais, c'est pas, j'avais une petite surprise, il y a un morceau de Claude Bolling
tout
à l'heure.
Qui était un pianiste.
Bien sûr, un très grand pianiste.
Et un grand pianiste. Et c'était délicieux, ses yeux doux étaient délicieux.
Mais, enfin, je n'en doute pas un instant. Mais à part Claude Bolling, il y a aussi l'ensemble de la vie de Saint-Germain-des-Prés, la vie intellectuelle et la vie nocturne.
Moi la vie intellectuelle, c'était la vie nocturne.
Ah oui, ouais, vous êtes très franche.
Oui, oui.
Il faut savoir où on est un grand écrivain, où on danse à Saint-Germain-des-Prés.
Oui, c'est ça, c'était la vie nocturne.
Vous
c'était
avez aimé
magnifique,
ça.
À mon âge.
Bien sûr.
Vous comprenez.
Et vous commenciez à travailler.
Et je commençais à travailler.
Donc vous cherchez du travail partout.
Ah oui, partout.
Et c'est le hasard
qui conduit à la presse. Ma mère ne voulait pas que je travaille.
Donc,
On m'avait offert, c'était le début du Club Méditerranée. Et on m'avait proposé d'être hôtesse au Club Méditerranée. J'étais enchantée, j'avais 18 ans. Ma mère m'a dit, mais n'en est pas question.
Bah, je crois qu'elle a bien fait.
Oui, parce qu'après je suis devenue journaliste.
Ben voilà.
Par hasard, parce que j'étais dactylo. Hein.
Alors vous rentrez chez France Dimanche comme dactylo.
Comme dactylo.
Hasard, c'était pas une vocation de presse, c'est le hasard qui vous conduit
le
là.
Le hasard absolu.
Ça aurait pu être chez les petits pois casse-grains, c'était
pareil. Ça aurait pu être n'importe quoi, une marchande de chaussures,
d'accord.
Un couturier.
Vous vouliez gagner votre vie, vous vouliez être indépendante.
Et j'entre là-dedans.
Donc vous êtes dactylo quelque temps, c'est pas passionnant. Vous parlez beaucoup de cet univers comme étant extrêmement machiste et où les femmes font vraiment...
Il n'y a pas de femmes.
...considérées comme pas grand-chose.
Non. Et j'ai eu une chance, enfin je l'ai fabriquée la chance. Il y a eu ce papier qui venait jamais.
Attendez, revenons, c'est important.
Non, c'est vous qui m'interrompez, c'est pas moi qui parle.
Non, mais il faut recadrer. C'est un moment important. Vous êtes dactylo, c'est pas un rôle captivant, vous êtes jeune, dactylo, à France Dimanche. Et un jour, quelqu'un qui est un personnage important des médias, qu'on a beaucoup connu, Pierre Bénichoux, a un gros problème. Que se passe-t-il donc?
Pierre Bénichoux n'apporte pas son papier.
Et pourquoi? Il n'arrive pas à l'écrire?
Non, parce qu'il foutait rien.
Okay.
Il était léger, il faisait rien. Et le rédacteur en chef qui s'appelait Philippe de Baleine,
bien sûr, je vois qui c'est,
dont que je n'ai jamais oublié, passait son temps à râler, il disait alors il amène son papier, oui ou non. Et moi je me suis dit tout à coup, ça, il faut que j'y aille là. Ça, je le fais.
Donc vous dites à la cantine, je le fais.
Je dis à
vous sortez de votre
de Baleine,
rôle.
Je me suis dit, tant pis. Je me retourne, j'étais devant, parce qu'il était derrière moi. Et je lui dis, je le fais. Il a été tellement stupéfait qu'il m'a dit, bah, faites-le.
Est-ce que par chance, vous vous souviendriez de quoi il s'agissait, cet article?
Aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que j'avais trouvé un sujet qui n'avait été pas, à l'époque, convenable.
Ah bon?
C'était l'infidélité des femmes.
Non, mais ça, c'est pas le premier papier.
Non, c'est le deuxième papier.
Oui, voilà.
Le premier papier, c'était, je ne me rappelle pas du tout, j'ai acheté tous les journaux pour voir comment on faisait.
Mmh.
Et j'ai copié, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai copié de tous les côtés pour faire un papier.
Donc alors, vous êtes absolument néophyte. Philippe de Baleine, le rédacteur-chef, devant l'urgence, accepte que la petite dactylo sorte de son rôle.
Et devant l'urgence, et l'étonnement est de moi.
J'imagine. Donc vous faites le papier, vous lui rendez, et il est accepté. Des modifs, j'imagine.
Il est accepté avec plein de corrections.
Que vous comprenez, qui étaient justifiées.
Que je comprenais, que je regarde, et que j'apprends. Et puis ça recommence, 3 semaines après. Et moi aussi, je recommence. Je fais le papier. Et au bout de 3 fois, on a dit, bon, ben, elle n'est plus dactylo, elle est rédactrice.
Et très peu de femmes rédacteurs à l'époque.
Il n'y en avait pas.
Ou vous êtes la seule?
J'étais la seule.
Incroyable.
Mais il n'y avait pas de femmes dans les journaux. Il n'y avait pas de femmes qui travaillaient comme ça.
Oui, je
comprends. Du tout.
Vous êtes une des premières.
J'étais la première. Et j'adorais ça. Et j'étais très à l'aise.
Alors, dans quel domaine d'élection avez-vous écrit? Quel était le domaine qui vous était imparti?
N'importe quoi. Je n'avais pas de domaine.
Mais il me semble, sur ce que j'ai un peu compris, mais rectifiez si je me trompe, vous avez beaucoup écrit sur l'aspect sociétal. Vous n'avez pas écrit sur la politique internationale.
Ah non, ça c'était incapable.
Voilà.
J'ai écrit sur la vie, les hommes, les femmes. Au
c'est
fond,
ça.
C'était ça mon sujet. Les hommes et les femmes.
Depuis toujours. Depuis, c'était votre sujet depuis toujours. Vous l'avez dit au début de l'émission.
Ça a toujours été mon sujet, oui. C'est vrai, c'était par écrit, après c'était moins par écrit, puis c'est de nouveau par écrit.
Et vous avez trouvé l'écriture, vous avez trouvé ça un exercice réjouissant, difficile, vous avez du mal à finir les articles ou ça coulait facilement?
Non, les deux. Ça coule et puis on a du mal. Ça coule et puis on a du mal. Il faut que ça se tienne, il faut que ça soit bon, que ça parte fort.
Vous aviez des conseillers, on vous disait non, il faut faire un angle comme si, un titre comme
j'avais
ça.
J'avais compris, je lisais les papiers. Hein. Mm-hmm. J'avais compris comment il fallait faire, seulement j'arrivais pas toujours à le faire.
Bien sûr.
Alors j'ai été très aidée parce que les gens aiment bien quelqu'un qui veut. Moi j'ai été très aidée. Parce que le rédacteur en chef, tout le monde aimait quelqu'un. J'étais jeune.
Bien sûr.
Quelqu'un qui en veut. On l'aide. J'ai été très aidée.
Donc un monde d'hommes, mais qui finalement vous a ouvert la porte malgré tout.
Ben oui, il n'y a eu aucun problème. J'étais dans un monde d'hommes, mais ils m'ont mal laissé ma place. Mais avec beaucoup de gentillesse. D'accord. J'étais très bien dans un monde d'hommes.
Sortons un instant de ce passé, si vous voulez bien. Je vous amène sur un terrain glissant.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de MeToo, par exemple, et du combat féministe actuel qui me semble avoir outrepassé les limites, personnellement. Mais comme vous êtes une militante féministe de l'époque, j'aimerais savoir comment vous voyez ce qui se passe actuellement.
Pour être très franche...
Oui, c'est mieux.
Je trouve ça ridicule. Mais c'est peut-être idiot de dire ça.
Bah non, c'est ce que vous pensez.
Parce que c'est très spontané, les rapports hommes-femmes. On ne va pas commencer à faire des politiques, on ne va pas commencer à faire des slogans.
Mais vous voyez bien que si, c'est ce qui se passe.
Je vois bien que si, mais je suis toujours étonnée.
C'est un peu désolant.
Ça me paraît étonnant, parce que ça veut dire que ça, c'est difficile alors que ce n'est pas difficile.
Ben, vous dites néanmoins vous-même, je me fais à nouveau l'avocat du diable, que ça n'a été pas simple de s'imposer en tant que femme.
Ah, et dans
que
un ça milieu demande... d'hommes.
Voilà.
Oui, mais c'était le cas il y a mille ans. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Il y a mille ans.
Mais
vous avez commencé à France Dimanche il y a mille ans.
Mais regardez, il y a des femmes partout maintenant. C'est les femmes, c'est les hommes qui ont du mal à se mettre une place.
Justement, je voulais vous en parler, docteur.
Il y a des femmes partout maintenant.
Je sais. Un peu de musique, ça vous dit? Vladimir Kosma, c'est la musique de L'As des As. Je n'ai pas voulu mettre Kimaï. Kimaï est magnifique. C'est la musique sur laquelle, du professionnel, sur laquelle on a emmené Belmondo aux Invalides dans un moment extrêmement émouvant. Mais ça m'a paru trop triste. Donc je préférais conserver un moment enlevé. Donc c'est la musique de L'As des As, Vladimir Kosma, Jean-Paul Belmondo. On lui rend hommage. Il est mort il y a 5 ans demain.
Il y a 5 ans.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Nous recevons aujourd'hui dans Les Neiges du Kilimandjaro Danielle Lord, qui a été une femme de médias, presse écrite et radio entre autres, et qui chez Fayard raconte un peu ses souvenirs de manière légère. Il n'y a pas de référence précise de date, ça ne suit pas un canevas très clair, c'est plus une ambiance. Ça s'appelle de manière étonnante, je n'ai que 5 minutes à vous accorder, donc chez Fayard. France Dimanche, c'est là où vous avez débuté, le premier article dû à la flemme de Bénichou, c'est vous qui le faites. Du coup, vous devenez journaliste un peu reconnu et on vous propose d'entrer chez Marie-Claire.
Oui.
Ça, c'est un grand changement dans votre vie, avec un changement financier énorme.
Inimaginable.
Oui, vous dites à un moment que vous passez de, je crois, 100 ou 150 francs par mois à 3000.
70 euros par mois.
Oui, non, mais on a peine à croire. Mais...
70, mais non, à l'époque.
Oui, mais quand même. Et vous passez à 3000.
À 3000.
Mais c'est vertigineux. Vous faites 40. Fois 40.
Alors ça, c'était... Alors quand j'ai entendu le chiffre 3000, je me demandais si je rêvais. Parce que 70, c'était normal.
C'est vrai.
Comme salaire.
Donc on vous propose Marie-Claire, rédactrice en chef.
Et puis c'est comme si aujourd'hui, on vous passait de 1000 euros à 1 million.
Oui, presque, oui. Non, pas tout à fait.
Non, pas tout à fait,
mais 1000 euros à 40, ça fait 40 fois.
Oui, c'est ça. Alors évidemment, et la stupéfaction, c'est quand j'ai été dire au rédacteur en fait, chef, gentiment, je m'en vais... Pas du tout avec aigreur, ni avec rancune, lui dire je m'en vais parce qu'on m'offre tant. Et il me dit je vous les donne.
Oui, c'est fou ça.
Ah ça, j'ai jamais oublié de ma vie. Je me suis dit, donc on peut tout demander dans la vie.
On pourrait croire que nous avons répété, vous et moi, parce que j'avais prévu de lire un extrait de votre livre qui est exactement celui dont vous parlez à l'instant. Et vous dites, on croit toujours que c'est vulgaire l'argent. Non, il faut demander. L'argent pour une femme, c'est la seule manière de ne pas être au bord de la route. Et moi, le bord de la route, je l'avais assez vu enfant, avec des gens qui fuyaient. J'ai donc appris ce jour-là une règle d'or. Quand on vous dit vous êtes importante, vous le vérifiez et vous le vérifiez en chiffres. La poésie, c'est les titres. La liberté, ce sont les conditions matérielles.
Exact.
Donc vous revendiquez ça.
Ben évidemment. Vous comprenez, l'argent, j'ai compris ce que c'est. J'ai compris.
Alors, vous êtes rédactrice en chef de Marie-Claire, un journal important. Du coup, vous devenez aussi un personnage un peu mondain. Vous sortez beaucoup, vous rencontrez des gens.
Oui, mais je n'étais pas mondain pour être mondaine. Mm-hmm. Je sortais parce que j'adorais sortir, j'adorais la vie. Je ne voulais pas me coucher à 8 heures du soir. J'avais des amis partout, j'avais beaucoup d'amis à l'époque. Donc, je sortais tout le temps. Mais c'était normal. Je ne sais pas ce que je faisais, d'ailleurs.
Quand vous sortiez ?
Mais oui, on devait dîner, je ne sais pas ce qu'on faisait.
On dansait, peut-être ?
On dansait.
Ouais. On jouait aux cartes ?
Ouais. Non, je n'étais pas une joueuse de cartes, moi. Pas du tout. Mais j'avais des amis joueurs de cartes, beaucoup.
Bon, et dans la journée, excusez-moi d'y revenir, dans la journée, vous travailliez. Et donc, ce rôle de rédactrice en chef de Marie-Claire, c'était lourd, c'était compliqué, c'était passionnant ?
C'était impressionnant. Il fallait faire ce qu'il fallait faire. Et on ne pouvait pas chômer.
J'imagine.
Non.
Vous n'avez pas chômé.
Et puis, vous savez, les gens vous guettent.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, ils attendent qu'on se fiche dedans, ils attendent qu'on se trompe, ils attendent pour prendre la place. Vous savez, on est très... Il faut se battre. Hein.
Est-ce que vous écriviez encore ou bien vous contrôliez les articles des autres à ce moment-là ?
Les deux. J'écrivais un peu, pas beaucoup, ça me fatiguait. Mais je contrôlais les articles des autres.
Et vous impulsiez...
Ça m'amusait beaucoup parce que c'est facile.
C'est un journal féminin, un journal respectable, mais spécifiquement féminin. Donc,
Oui, évidemment que j'impulsais. Évidemment, j'ai fait ci, changer ça, ranger ça, etc.
D'accord. Mais est-ce que vous avez une autonomie sur la ligne éditoriale générale du journal ?
Non. C'était Jean Prouveau.
Oui, le grand patron de presse, oui, bien sûr.
Et vous savez, Jean Prouveau, on l'appelait le patron, il fallait aller le voir. Hein.
Ah oui ?
Le patron.
Donc, vous étiez quand même dans un cadre très précis.
Très précis, c'était le patron, Jean Prouveau. Et à partir de là, on était tous sous le patron. Et quand je voulais quelque chose, j'allais voir le patron. Et je l'appelais patron.
Quand on a le rôle que vous aviez à l'époque, est-ce qu'on devient très sollicité dans la vie parisienne, rédacteur en chef d'un grand journal comme ça ?
On devient, mais on n'y prend pas attention. Parce qu'on est très occupé le jour. Moi, je crois que j'avais une occupation de nuit. Je ne m'en rappelle plus.
Pardon ?
J'avais un jeune homme, sans doute, dans ma vie.
D'accord.
Sûrement.
Ben oui, j'imagine, oui.
Non, mais
et d'ailleurs, le voici. Non.
Je ne m'en rappelle plus.
Mais non, je plaisante.
Non, mais parce que... Je me rappelle, mais enfin, j'étais occupé.
Bon,
j'ai jamais été seul.
Ben, tant mieux.
Voilà.
Jean-Paul Belmondo nous a quittés il y a 5 ans demain. Tout au long de l'émission, j'ai eu envie de vous faire écouter des grands moments de sa carrière. Voici un extrait de ce film de 79, Flic ou voyou, où il est plus vrai que nature. Certains peuvent dire qu'il se caricature un peu dans le genre boum boum tac tac c'est moi, mais il le fait tellement bien.
La montagne magique de Thomas Mann, c'est combien?
Verboten. Interdit en Allemagne ce livret.
Et Zola, il est verboten aussi?
Bien, Zola, aussi verboten.
Brecht?
Verboten.
Hemingway?
Verboten.
Freud?
Verboten.
Hitler?
Verboten. Nein, das ist mein Kampf. Das ist mein Kampf.
Juif vous êtes?
Juif vous avez l'air.
Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début.
Was?
On dit pas juif vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
Bien sûr, vous avez rectifié de vous-même, je me suis trompé, ce n'est pas du tout Flic ou voyou, c'est bien sûr L'As des As. Et en écoutant la fin de l'extrait, qui est drôle, j'ai envie de vous demander si vous, on en parle en début d'émission, qui avez vécu une adolescence, une fin d'enfance difficile, l'inquiétude de l'arrestation, une famille juive donc. Est-ce que le fait de plaisanter, comme on le fait là, sur ces sujets, vous paraît acceptable? Vous n'êtes pas choqué?
Le fait de
il plaisante sur la guerre, l'occupation,
oh,
on
oui,
peut le faire.
Si, mais oui, écoutez, il y a quand même un bout de temps.
On peut rire de ça aussi.
On a le droit du rire du passé.
Gérard
du passé, très passé.
C'est Gérard ou très passé en un mot?
Oui.
c'est Gérard Oury, l'auteur du film, qui,
ah,
est d'ailleurs
oui,
même,
Gérard,
qui lui-même d'ailleurs, est de confession juive.
Oui. Il était connu.
Bien sûr, il est connu, il est bon, La Grande Vadrouille, enfin beaucoup de films formidables. Revenons un instant, Daniel Lord, à votre carrière chez Marie-Claire. Combien de temps ce poste? Je sais que vous n'êtes pas très fan de date, j'ai l'impression que ça a duré une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, quelque chose comme
près,
ça.
Oui.
Longtemps, j'en avais assez à la fin.
C'est vrai?
Oui.
Vous trouviez ça contraignant?
Non, c'était... J'aimais un peu le changement. Puis j'ai fait beaucoup de radio, j'adorais la radio.
On va y venir dans un instant. Est-ce que vous le disiez au début de l'émission, vous n'aviez pas de projet de faire de la presse, c'est venu par hasard?
Pas du tout, c'est venu par hasard.
Est-ce que maintenant que c'est derrière vous, et donc c'est le passé qui ne vous intéresse pas beaucoup, mais il se trouve qu'on en parle
si
aujourd'hui,
ça m'intéresse.
Est-ce que vous êtes content d'avoir fait ça? Est-ce que finalement ça vous correspondait?
Complètement. J'ai eu la chance extraordinaire de tomber dans un métier et un milieu qui m'allait comme un gant. Si j'avais choisi, j'aurais choisi exactement ça. Mais je ne savais pas ça. La presse m'allait comme un gant. Tout m'allait comme un gant. Les gens, le rythme, tout. Parce qu'il y a une espèce de chose merveilleuse dans la presse. Tous mes amis étaient journalistes, je vous ennuie pas là.
Pas le moins du monde.
Tous mes amis étaient journalistes et il y a ce mélange de sérieux, profond quand il faut travailler.
Bien sûr.
Et de fantaisie profonde quand on sort du travail. Je n'ai rencontré que des gens intelligents, drôles, spirituels. J'adorais ça.
Vous êtes allé beaucoup au théâtre, vous avez beaucoup...
Non, ça me cramait les
non.
pieds. Non, je sortais dîner avec tous mes amis journalistes. J'adorais les journalistes.
D'accord. Y compris ceux qui s'intéressaient à des sujets plus sérieux,
entre guillemets. Oui, ça n'avait pas d'importance. C'est un métier extraordinaire. Enfin, pour moi.
Est-ce que vous avez une admiration pour les femmes journalistes qui, peu de temps après vous, sont lancées, mais sur des sujets encore plus réservés aux hommes, du type, j'allais dire, 20 ans après vous, Catherine Ney, ce genre de personnage qui est d'ailleurs formidable.
Ah, j'aimais beaucoup Catherine Ney.
Elle est extraordinaire,
beaucoup,
Catherine Ney.
Parce qu'elle est très intelligente,
elle
a
brillante.
Un charme fou.
Et c'était encore plus difficile pour elle.
Mais à mon époque, elle n'était pas sympathique. J'en ai rencontré une ou deux, Savant Schreiber, là, machin, prétentieuse, jouant les hommes.
Ah bon?
Vous comprenez, elle n'avait pas encore compris qu'on peut être une femme dans un métier d'homme.
Est-ce que chez Marie-Claire, la rédaction était féminine exclusivement ou majoritairement?
Ah non.
Non, pas forcément.
Que masculine.
Marie-Claire était écrite par des hommes?
Ah mais c'était que j'étais la seule femme.
Non, attendez, à France Dimanche, oui, mais à Marie-Claire,
mais
journal
à Marie-Claire
de femmes.
Marie-Claire aussi.
Journal pour les femmes écrit par des hommes?
Mais naturellement, il s'appelait Derrick, j'oublierai jamais le type qui était en face de moi. On était deux, il n'y avait que des hommes.
Ça alors?
C'est pas la peine, parce que c'est... Voilà comment ça se passait. Il y avait un groupe des kyrielles de femmes qui faisaient des enquêtes.
Oui.
Qui ramenaient le matériel et c'était les hommes qui écrivaient.
Non.
Mais nous étions trois écrits. Il y avait Paris Match, Marie-Claire sur le même Marie-Claire, Paris Match sur le même palier, ensemble. Et il y avait en tout et pour tout, pour Match et Marie-Claire, trois écrivains. On les appelait des écrivains. Trois personnes qui écrivaient sur 100 qui faisaient des enquêtes.
Ça, et qui ne signaient pas.
Mais non, ils n'écrivaient pas un mot, ils ne savaient pas écrire. Vous savez, c'est très rare les gens qui savent écrire.
Oui, c'est vrai, mais enfin quand même.
Mais non, nous étions trois.
Non, mais je suis stupéfait que vous m'appreniez que j'étais persuadé que Marie-Claire était écrite par des femmes.
Mais pas du tout, c'était écrit par moi et deux hommes, avec Match.
D'accord.
Parce que nous étions ensemble sur le même...
Oui, mais vous n'avez pas travaillé pour Match, vous, pas du tout.
Non, mais nous étions sur le même étage
sûr,
et nous étions mélangeant ceux qui travaillaient. Il y avait ceux qui travaillaient... On était pareil, Marie-Claire et Match, c'était les mêmes qui travaillaient. Il y avait
un tronc commun, oui.
Pas de femmes.
Ça alors, je suis stupéfait. Même pour écrire des articles sur les choses féminines...
C'est venu après, tout ça, c'est venu après.
D'accord, là on est en 65, 70, 75...
C'est ça, à mon époque, j'étais la seule femme.
Ouais, je comprends. Ça ne nous ennuie pas qu'on écoute encore un petit extrait de Jean-Paul Belmondo?
Pas du tout.
Voici Flecou Voyou que j'avais annoncé par heure, tout à l'heure. Non mais je sais bien, je vous fais exprès pour vous faire réagir. Flecou Voyou, cette fois-ci, le voilà.
C'est quoi, tout le gosset, c'est pas tourné d'eau bénite. Alors j'ai pris des sens ordinaires. Vous savez combien ça coûte, ça? Bientôt 3 balles. Marqué, on aurait fait venir l'exorciseur, on aurait acheté des cierges, ça aurait pas coûté 3 balles non plus.
Exorciseur? Mais pourquoi faire, monsieur Chiarouti?
Pour chasser le diable, madame Langlois. La petite sœur vient ici, crac, elle se retrouve au ciel. Le commissaire Bertrand, pareil. Ce pauvre Mario, pareil. Alors je me suis dit, c'est l'endroit qui est pas bon. Même pour vous, je ne suis pas tranquille. C'est pas sain.
Mais je suis pas chez moi, je suis que le gérant.
Ah, ben alors j'ai mieux ça. C'est pas un bien de famille. Madame Langlois serait née ici. Je comprendrais. Je dirais, c'est sentimental.
Voudriez pas une bière, des fois, monsieur Chiarouti?
Ah non, non, madame Langlois. Je n'aurai pas le temps. Permettez. Allô, monsieur Hussard? Voilà, je suis prêt à allumer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les deux bras? Qu'on les fait cramer? Franchement, j'aime mieux ça. Bonne nouvelle, vous ne cramez pas. Il est chouette, hein? L'Auvergnat, très chouette. Bon, c'est pas le tout. Mais quand il faut y aller, il faut y aller.
Il est chouette, l'Auvergnat. Fantastique, oui, Jean-Paul Belmondo. Je reprends votre livre, Daniel Lord, chez Fayard. Je n'ai que 5 minutes à vous accorder. Et vous dites à un moment cette chose très claire. Je ne voulais pas devenir invisible. Je voulais l'indépendance. Je voulais l'argent. L'amour, c'est merveilleux, mais c'est une mauvaise banque. Vous jouez un peu les cyniques, quand même.
Quoi ?
Vous jouez un peu les cyniques ou c'est ce que vous pensez vraiment ?
Je pense que l'amour est aussi important, sinon plus.
Ah, finalement, quand même.
Évidemment.
Mais en tout cas, l'indépendance, c'est vrai, c'est ce que vous voulez, vous l'avez eu.
Il faut les deux. Voilà, l'argent ou le travail permet l'indépendance. À partir de son indépendance, on choisit.
Est-ce que vous avez pensé, parfois, avoir pu inspirer, vous étiez parmi les premières femmes dans la presse, les 50-60, vous pensez que vous avez inspiré des jeunes femmes?
Non, j'en sais rien. Je crois pas, je vois pas pourquoi.
Bah parce que vous étiez une précurseur.
Ah ben oui, mais ça... je ne m'en rends pas compte du tout, vous savez. On s'en rend pas compte de ces choses.
Ben, on vit et puis on voit après.
Pourquoi pas?
Donc de la radio. Arrivons à la radio, ce média qui nous plaît tant. Nous sommes sur Radio Courtoisie, que j'adore. Et vous étiez à une époque donc sur RTL. Racontez-moi ce que vous y faisiez avec Guy Descartes.
Attendez, il faut que je cherche.
Vous faisiez une émission qui s'appelait Un homme, une femme.
C'est ça. Alors voilà, maintenant je m'en souviens. D'abord, ça se passait le dimanche.
Oui.
Ça se passait dans un studio public où il y avait un énorme public.
Ah oui, c'est impressionnant ça.
Impressionnant. Je me rappelle de ça parce que tous les dimanches, je me précipitais après. Il fallait que je déjeune très vite pour me précipiter à la radio. Et nous étions sur une estrade, Guy Descartes et moi. Lui arrivant en sifflotant, moi en m'étant morte de peur et de trac. et nous étions assis tous les deux. et lui se chargeait d'interviewer les femmes et moi les hommes.
Ah, bien.
Et une fois que nous avions fait... Alors, les interviews étaient en public, écoutées en public.
Bien sûr, bien sûr.
Et une fois que c'était fait, je crois qu'il y avait des rencontres entre ces hommes et ces femmes. Enfin, les hommes qui téléphonaient, les femmes qui étaient dans le public les choisissaient, les femmes à l'envers étaient choisies par des hommes.
Mais est-ce que c'était quelque chose de léger ou bien ça se voulait un peu sociologique sur les rapports hommes-femmes en général ?
Un peu les deux, c'était pas que léger. C'était léger, mais on ne sait pas ce qui va arriver.
J'aurais aimé trouver un extrait de l'émission, mais je n'ai pas trouvé. Donc, en revanche, j'ai pensé que ça vous amuserait peut-être d'écouter Guy Descartes, qui a été votre co-animateur. Il répond à une interview de Jacques Chancel et il parle de littérature. Vous auriez aimé être grand écrivain, il en parle justement.
Ah oui, Chancel.
Enfin, j'aurais compris Guy Descartes au cours de cette conversation, et 10 ans après, je crois que vous n'avez pas changé, en effet, que la vraie valeur pour vous, la vraie valeur d'un livre, est de se vendre.
C'est d'être lu. C'est pas de se vendre. C'est d'être lu, vous comprenez? C'est d'être lu. Mais il y a un corollaire, c'est que les gens qui achètent un livre dans une librairie, on ne force personne à entrer dans une librairie et acheter un livre, hein. Même une librairie de gare. On n'oblige personne. On l'achète ou un journal, on achète ce qu'on veut. Le geste d'acheter un livre d'un auteur qu'on connaît depuis le temps, c'est une sorte de fidélité qu'on a pour lui. C'est une sorte de confiance qu'on a en lui, ne sachant pas ce qu'il va mettre dans son livre. C'est déjà un geste d'amitié du lecteur. Et là, le lecteur a acheté son livre, puis commence à le lire. Il peut lui plaire moins qu'un autre, du même auteur, ou plus, j'en sais rien. Mais, et c'est là peut-être où la pérennité, la fidélité de mes lecteurs, il défendra ce qu'il a acheté. Tandis que le monsieur qui reçoit son livre dans un service de presse à l'œil, qu'il n'a pas payé. Le monsieur qui est invité à une répétition générale de théâtre, où il n'a pas payé son fauteuil. Celui-là se dit, il m'envoie ça, il a besoin de moi. Il a besoin de moi, l'auteur, ou l'auteur dramatique, ou le directeur du théâtre. Donc, c'est mauvais. Moi, je trouve que ce qui est formidable, je fais le minimum de services de presse. Et croyez-moi, je m'en porte merveilleusement. Parce que les gens qui ont acheté un livre, qui ont payé leur fauteuil d'orchestre, ne critiquent pas l'argent qu'ils ont dépensé. Ils défendent leur goût et leurs idées. Et ceux qui ont les choses ailleurs, à l'œil, sont contre.
Bah dites-moi, il était remonté, Guy Descartes.
Ah mais il était très heureux de lui-même.
Oui, hein. Ça s'entend un petit peu. Ça, vous reconnaissez sa voix? Ça vous évoque des souvenirs d'entendre à nouveau sa voix longtemps
non,
après
c'est ce qu'il dit qui m'évoque des souvenirs, parce qu'il était très sûr de lui, très prétentieux, très content.
Reconnaissons-lui d'avoir créé. Il a laissé une œuvre.
Je suis entièrement de votre avis.
Il a réussi au fond un rêve qui était le vôtre, que vous n'avez pas réussi, devenir un écrivain.
Absolument, je suis entièrement de votre
succès.
Avis. Mais seulement c'était un écrit... Non mais... j'ai jamais eu le rêve d'être un écrivain populaire, parce que j'en aurais été incapable. Et tandis que lui était un écrivain très populaire.
Il savait le faire, oui. C'est un talent.
Ah oui.
Bien sûr.
Évidemment, c'est un talent.
Mais vous êtes beaucoup sorti le soir, donc l'écrivain, il faut qu'il travaille à sa table. Vous ne pouviez pas, vous sortiez trop souvent.
Non, mais j'ai jamais pensé être écrivain.
Si, au début, vous m'avez dit j'aurais aimé être écrivain.
Aimé être écrivain, mais être comme ça que ça me tombe du ciel, au fond.
C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut s'acharner.
Mais j'ai quand
à sa
même écrit quelques livres.
Bien sûr, mais c'est plutôt.
J'en écrit beaucoup, en fait.
Ouais, 6 ou 7, je crois. Plus
oui,
que ça.
Oui, 6 ou 7.
Mais plutôt des souvenirs, plutôt.
Non, pas du tout. Ma timidité. Et mon manque de confiance en moi m'ont fait ne jamais les montrer à un éditeur.
Ah ben, jamais.
J'en ai 7 livres dans ma maison que je n'ai jamais montrés.
Ah mais qui n'ont pas été publiés?
Jamais.
Et de quoi parle-t-il?
C'est moi qui les ai publiés.
De quoi parle-t-il? En gros.
J'osais pas, j'avais peur qu'on me refuse.
Oui mais faut tenter le coup, vous qui êtes audacieuse.
Alors qu'est-ce que je vais faire? Maintenant je me dis maintenant je vais le faire.
Et ben maintenant vous en avez un qui est publié.
Oui, mais c'est un peu ridicule, non?
Mais non, c'est pas ridicule. Après, mais il faut accepter l'idée que peut-être ça ne plaira pas.
C'est ça. Mais maintenant, j'ai plus peur.
Oui, c'est
m'en
ça.
Fiche
c'est maintenant. L'avantage de l'âge. Charles Aznavour, dans les années 70, a fait cette chanson assez étonnante qui évoque la vie nocturne que vous avez connue. Et c'est un mélange d'énergie, de jerk-rapi et de slow. Ça s'appelle « Les plaisirs démodés ». Vous en souvenez?
À voir.
Familier, de la boîte à la molle. Oh, lueur psychédélique au curieux décorum. Découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connu parmi ceux de notre âge. Pèlerinage, danser dans la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi le plaisir de mener ton cœur contre mon cœur. Je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre nous. Dansons, joue contre nous. Viens, noyé dans la cohue, mais dissocié du bruit. Si sur la terre il y avait que nous, lissons les yeux du clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre nous. Dansons, joue contre c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est dans. Ils semblent sacrifier à des rites barbares. Sur les airs aujourd'hui, souvent vieux de temps. L'un à l'autre étranger, bien que dansant ensemble. Les couples se démêlent, on dirait que pour eux. La musique et l'amour ne font pas encore ensemble. Dans cette obscurité, propice aux amoureux.
Les plaisirs des modés, Charles Aznavour, 70-72, l'époque, Daniel Lord, la pleine époque où vous êtes à Marie-Claire, rédactrice en chef. Ça vous évoque des souvenirs, j'imagine, ça.
Oui.
Ça évoque la vie nocturne que vous avez beaucoup fréquentée.
Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte?
Ah non, je voulais rien. Je voulais juste savoir si vous aimiez Charles Aznavour et si cette chanson vous rappelait cette époque-là.
Naturellement, beaucoup.
Il a su faire des choses assez étonnantes.
Ah oui,
et celle-ci
absolument.
Est notamment très surprenante. Dans votre livre dont nous parlons aujourd'hui, je n'ai que 5 minutes à vous consacrer, vous définissez vous-même, c'est quand même rare de voir ça, comme assez dur et assez sèche. Moi, je ne trouve pas en vous voyant là.
Qu'est-ce qui était dur et sèche?
Vous-même, vous dites dans votre livre, je passe pour assez dur et assez sèche, notamment dans le travail.
Ben oui, parce que j'ai été toujours dans des rôles où de diriger un peu. J'ai jamais été dans des rôles dessous. J'ai toujours été au-dessus. D'ailleurs, j'ai commencé en dessous, on m'a tout de suite monté. Et c'était pas forcément mon goût. Hein.
Mais quand même, c'est rare de voir quelqu'un se définir lui-même en disant « je suis un peu dur et sèche ».
Et oui, parce que je suis un peu dur et sèche. Il n'y avait pas le choix. J'ai compris qu'il n'y avait pas le choix.
Vous pensez que vous avez pu parfois blesser des gens?
Non, pas blesser. Mais non, j'ai jamais voulu blesser personne. Et j'ai toujours fait très attention. Mais j'étais quand même en haut. Et vous savez, c'est pas par hasard qu'on arrive en haut. Et j'ai jamais cherché à aller en haut. On m'a mise en haut.
Cela dit, une fois que vous êtes arrivé à Marie-Claire dans ce rôle important, rédacteur en chef, vous auriez pu continuer une carrière, passer ailleurs,
faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi ça m'a... Non, j'en ai eu
Vous êtes resté si longtemps, finalement.
Oui, parce que ça y est, j'avais vu ce que c'était que d'être journaliste, je voulais faire autre chose, je ne sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais, vous savez, après, moi je suis un peu impatiente. Une fois que j'ai exploré une situation, je trouve qu'il faut passer à une autre. Mm-hmm. Alors, j'avais compris, bon, d'accord. Et puis, on se met tout le monde à dos quand on est rédacteur en chef. Moi, j'avais des tas d'amis et je les ai perdus.
Ayant commencé à faire de la radio, vous n'avez jamais songé à faire de la télévision, par exemple ? Je ne sais pas trop.
Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision.
Oh, bah, quand même, vous exagérez, 70-75,
j'ai été une fois à la télévision. D'accord. Il n'y avait pas de gens qui faisaient comme moi du dehors de la télévision. Et ça n'existait pas.
C'est vrai.
Je suis allé une fois à la télévision. C'était un événement. Je me suis assis, je ne comprenais pas ce que je faisais là, comment il fallait s'y prendre. C'était quand même pas encore le temps de la télévision, c'était le temps de la radio.
Le temps du cinéma est éternel. Il y a 5 ans, disparaissait Jean-Paul Belmondo. Tout au long de l'émission, j'ai pris cette liberté de diffuser des extraits marquants de sa carrière. Ça, c'est un film formidable, Philippe de Broca, avec Françoise Orléac, tellement charmante, s'appelle L'Homme de Rio. Sachez que Steven Spielberg, quand il a fait L'Aventurier de l'Arche perdue, a expliqué maintes fois qu'il avait été inspiré par ce film et son rythme échevelé qui n'arrête jamais. Belmondo qui poursuit sa belle qui a été enlevée tout au long du film, c'est fantastique, L'Homme de Rio.
C'est loin, Brasilia?
Non, l'imagino. 1000 ou 2000 kilomètres.
1000 bornes, il nous faut une voiture.
J'y connais des quelconques.
Ah oui. De quelle couleur je veux?
Rose, avec des étoiles vertes.
Oh, regarde la petite maison, là. Tiens, les papillons. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
Là, aide-moi, regarde là.
Un poteau.
Oh, mais non, là.
Un poteau télégraphique.
Alors toi, on fait le tour du monde et tu vois que des poteaux.
Oh, oublie-moi un peu, tu veux?
Il est fabuleux. On est au milieu des merveilles et monsieur fait son blasé.
Écoute, un déserteur qui voyage dans une voiture volée avec une hystérique, de deux choses l'une. Ou c'est un névropathe, ou c'est un blasé, choisis.
Avance.
Si je veux.
Bon, je descends.
Pas descendre.
Décidément, tu feras toujours de moi ce que tu veux.
Françoise d'Orléac, que j'admire et que beaucoup de gens admirent, cette jeune femme qui a disparu très jeune dans un accident de voiture terrible, la sœur de Catherine Deneuve et qui avait beaucoup de talent, et Belmondo tel qu'en lui-même. Est-ce que, lorsque vous avez décidé d'arrêter ce métier de la presse, est-ce que vous êtes dit un instant, ma vie s'achève, je ne travaille plus vraiment, la vie n'a plus d'intérêt, ou bien après tout, l'amitié, on cultive autre chose, ça compte.
Vous voulez dire quand j'ai fini tout ça?
Voilà. Est-ce que ça a été difficile pour vous de quitter ces postes à responsabilité qui vous mettent au cœur du monde et de la vie et au cœur du siècle et brusquement
de
faire plus ça?
J'ai aucun souvenir de m'avoir dit ça.
C'est vrai.
Aucun.
Donc vous avez arrêté sans regret?
Aucun regret. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'avais fait tout ce que j'avais à faire, j'avais d'autres choses, j'écris des livres.
Oui, mais vous ne les publiez pas vraiment, alors.
Non, j'ai pas parti timide.
Mais je sais, vous m'avez dit ça tout à l'heure.
Je vais les publier maintenant.
Est-ce que le monde médiatique... Oui, faites-le. Est-ce que le monde médiatique actuel, trépidant encore plus dans tous les sens, les réseaux sociaux, est-ce que tout ça vous parle ou c'est très loin de vous? Vous ne voulez pas savoir comment ça marche?
C'est pas du tout que je veux pas savoir, c'est naturellement loin de moi.
C'est ça.
Parce que je suis d'un autre temps. Il faut mieux voir les choses.
Est-ce que, alors, si on va au bout de l'introspection, est-ce que vous vous sentez étrangère à notre époque?
Non.
Maintenant? Quand même pas.
Je ne me sens pas du tout étrangère, mais je ne me sens pas non plus familière.
Je comprends.
Parce que les choses, quand même, je suis spectatrice. Avant, j'étais actrice. Et d'être spectatrice vous fait de participer, mais pas du tout de la même manière.
Non, je comprends. Mais vous le disiez à l'instant que vous ne regrettiez pas votre décision d'avoir arrêté.
Pas du tout, pas une seconde. Et puis, vous savez, j'ai écrit beaucoup de livres. Je regrette rien.
Parfait. Est-ce qu'il y a... Vous me disiez en début d'émission, je vous posais la question de savoir quel aurait été le sommet que vous auriez aimé atteindre. Vous m'aviez dit, j'aurais voulu être un grand écrivain.
Oui.
Ça semble quand même tourner dans votre...
J'aurais voulu être un grand écrivain.
Ça semble tourner encore dans votre
tête. Je trouve que rien n'est plus beau qu'un grand écrivain.
C'est vrai.
Sommet.
Est-ce que vous aimez les auteurs, est-ce que vous aimez Colette, par exemple? Est-ce que vous aimez, je pense, à des femmes marquantes?
J'aime beaucoup Colette.
Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, vous avez lu tout ça?
J'aime tous ces, naturellement, je les ai tous lus. Et je répète, oui, j'aurais aimé être un grand écrivain, Mais j'écris et peut-être que je serai encore un grand écrivain. Qui sait ?
Alors, qui sait ? Mais là, loin de moi, l'idée est inconvenante, mais il faut quand même se dépêcher un petit peu. Pour publier. Il ne faut pas trop traîner quand même maintenant pour publier Daniel Ort, si je peux me permettre.
Vous avez le droit de le dire.
J'ai le droit de le dire. Mais je me lis déjà
pas
pour moi.
Je traîne
alors.
Trop. Non.
Donc dès la semaine prochaine, on vous
voilà,
y mettez.
Voilà, c'est ça.
Dernier extrait de la carrière de Jean-Paul Belmondo, dernier extrait, il y en aurait des centaines d'autres. C'est l'incorrigible, peut-être l'archétype belmondien, où il interprète 10 personnages à la fois, un escroc fabuleux, flamboyant. Il est vraiment très drôle.
Alors voyons voir. Votre père. Qui a gagné le bol d'or.
Non, il était deuxième, commençons pas à déformer.
Bon, c'est déjà pas mal pour un jardinier.
Un jardinier ? Mon père n'a jamais été jardinier, qui vous a dit ça ?
Votre oncle.
C'est bien de Camille, ça. Parlez pour parler. Mon père n'a jamais été jardinier. Il était garde républicain.
Bon, alors. Monsieur Vautier. Oublions votre père, puisque c'est pas avec votre père que vous vivez, mais avec votre oncle. Pourquoi ?
Parce qu'il est seul.
Ouais, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça.
Moi aussi, j'ai longtemps été seul. J'ai eu une jeunesse atroce dont j'aime mieux pas parler. Un père alcoolique, maman usée par les lessives. Je la revois dans la forêt couverte de givre, ramassant du bois mort. Moi, accroché à ses rayons.
Vous étiez combien chez vous ?
Oh, au moins 15.
Quinze ?
Et puis alors, des hommes ont commencé à défiler à la maison. Des militaires, surtout. Faut dire que maman était très belle. Vous l'auriez vue sur le grand escalier du vestibule, avec son boa autour du cou, en plume de paon.
Ah, pour ramasser du bois, c'est pratique, ça.
Non, alors écoutez, si vous m'interrompez tout le temps, moi, je perds le fil.
Je perds le fil. Fantastique, Philippe Broca, oui, Belmondo. Oui. 5 ans qu'il nous a quittés, mais il laisse quelque chose derrière lui, vraiment. Je prends votre livre à la page 88 et je décide de lire cet extrait qui m'a beaucoup touché. Vous dites « Je le dis comme je le pense, je pèse mes mots, la France est un pays miraculeux. De légèreté, d'intelligence, d'esprit, de beauté, de poésie, de grâce, de profondeur, un pays qui a tout. Et je ne dis pas ça par patriotisme bête, je le dis parce que je l'ai vérifié par contraste. » Vous êtes une patriote ardente, effectivement.
Je le pense. Et je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'aime la France ».
Ah, bien.
Parce que j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Et personne, les Français ne se rendent pas compte de leur chance. Ne se rendent pas compte.
Non, la tendance est plutôt à dénigrer.
Oui, on dénigre. On passe son temps à dénigrer. C'est un pays miraculeux. Ce que je dis, parce que j'ai vécu en Amérique des années. J'ai vécu en Angleterre. C'est surtout en Amérique. On ne se rend pas compte qu'on vit dans un pays extraordinaire.
Est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin ? Qu'est-ce qu'il y a de si bien ?
Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Il est intelligent, un pays intelligent. Il faut savoir ce que c'est qu'un pays intelligent. Ce n'est pas du tout ce qu'on croit.
Comment le jugez-vous, ça ? D'après
quel critère ? Parce que le plus bête est intelligent.
Non, mais c'est pas précis, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire
attendez,
par là ? Un pays intelligent,
on rencontre l'intelligence partout.
Vous trouvez ?
Elle est dans les magasins, elle est dans la rue, elle est chez les passants, elle est chez les gens de rencontre. C'est un pays qui bouillonne d'intelligence.
Vous avez, en revanche, vous savez comme moi que pour bien des pays du monde, nous passons pour assez arrogants et peu aimables.
Exactement. Ben, nous sommes arrogants, ben, tant pis. nous sommes tant pis. Comme... nous sommes arrogants comme les gens assez intelligents, ils sont toujours un peu arrogants.
Bon.
Bon, ben ça, c'est pas méchant.
Non, c'est pas méchant.
Nous sommes intelligents.
Mais qu'est-ce que vous aimez ? Vous aimez les paysages aussi de la France ? Vous aimez
j'adore la
sa
France.
Culture ?
Alors, vous fatiguez les gars, je l'adore. Parce que j'ai vécu beaucoup ailleurs. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « J'aime la France ».
Oui, vous disiez ça, oui.
Comme je vous l'ai déjà dit. Eh bien, ce que j'aime, c'est les gens, les paysages, la mentalité, la façon sérieuse et fantaisiste. Ce sont les seuls personne à la fois sérieuse et fantaisiste.
Vous savez que néanmoins, je suis d'accord avec vous moi sur le fond, mais vous savez que néanmoins, la France est un des pays du monde où on consomme le plus d'antidépresseurs et un des pays du monde récemment où il y a le moins de gens optimistes sur l'avenir, mais il y en a moins qu'au Vietnam. Et donc la France actuellement est très déprimée.
Ils sont très déprimés, mais je comprends. Je me demande si ce n'est pas les gens nerveux et intelligents qui sont déprimés.
Ben vous n'êtes pas du tout déprimé, vous.
Non, mais peut-être que je suis pas assez intelligent pour être déprimé.
Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même un problème, malgré tout. Moi, j'adore notre pays, mais il y a un problème fondamental.
Peut-être qu'ils ne voyagent pas, ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs. Ils ne voient pas que c'est bien pire ailleurs.
Peut-être, en effet.
Ils ne sortent pas de leur truc. S'ils voyageaient, ils verraient ce que ça se passe, comment ça se passe ailleurs. Que c'est assommant, quoi.
Oui, oui, moi je suis assez d'accord avec vous, la France c'est bien, il faut s'ouvrir au monde, mais la critique permanente
oui,
de la France est un peu déprimante.
Et oui, c'est ça qui est dommage, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte.
Alors soyons optimistes et soyons aimons notre pays.
C'est comment
votre... Soyons optimistes et aimons notre pays, c'est votre conseil,
je
j'y adhère très volontiers.
Oui, je pense aimons notre pays.
Tout à l'heure, à propos d'amour, il y a l'amour du pays, mais aussi à l'amour de quelques êtres. Et vous nous avez fait cette confidence en début d'émission que vous avez eu une petite amourette pour Claude Bolling, le célèbre pianiste.
Oh, mais il y a très longtemps.
Ah oui, d'accord, mais ça a quand même existé.
Ben oui, c'est lui à qui je plaisais beaucoup.
Mm-hmm.
Parce que, c'était une époque où je sortais beaucoup.
Ben oui, c'est ça.
Les soirs. Et c'était l'époque du jazz, vous savez. Il y avait les musiciens de jazz, il y avait le Lorientais, il y avait le Steffi.
Le Tabou.
Il y avait le Tabou. Et tout ça, c'était, on allait d'un truc à l'autre, et d'un musicien de jazz à l'autre. Et moi, j'adore le jazz. J'adore le jazz parce que je l'aimais toujours.
Bien sûr.
Et j'aime la musique de ma jeunesse.
Je comprends, c'est légitime.
Et alors, oui, j'avais un petit amour avec cet homme, qui était un pianiste et un type de jazz. Le jazz, c'est une musique physique.
C'est vrai.
Elle est à la fois physique et intellectuelle. C'est une extraordinaire musique. Moi, je l'adore.
Parfois un peu hermétique, quand on n'est pas connaisseur.
Elle peut être hermétique pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Hein. Mm-hmm. N'ont pas compris que c'était une musique physique.
Écoutons Claude Bolling, justement, si vous êtes d'accord.
Claude Bolling.
L'ex-amoureux de Daniel Lord. Il est avec, avec Duke Ellington. Quel duo incroyable.
Ah bah oui.
C'est Claude Bolling qui joue. Vous l'avez vu jouer près.
Bah,
Claude, il a joué pour vous. En faisant les yeux doux, peut-être. Hein. C'est pas exclu, ça. Hein.
C'est pas exclu.
Voilà. Et dans cet extrait qu'on vient d'entendre, ce qui est très amusant quand on voit l'image, c'est qu'il y a Duke Ellington, donc le maître absolu, qui ne joue pas.
Grand maître.
Mais qui regarde Claude Bolling, qui le regarde faire, qui brandit le pouce, qui le congratule, qui admire sa dextérité. C'est vrai qu'il est assez impressionnant dans l'exercice, là. Voilà, mes amis, c'est l'heure de se quitter à peu de choses près. Nous avons accueilli aujourd'hui Daniel Lord, qui publie chez Fayard un livre de souvenirs, mais qui n'est pas structuré de manière très précise, calibré avec des dates. C'est plus une ambiance, en réalité. Je crois qu'on peut rendre hommage à quelqu'un avec qui vous l'avez fait, d'ailleurs, une jeune femme qui s'appelle, je crois, Carole, avec qui vous êtes
travaillé. Oui, absolument. Hein,
avec qui vous êtes
travaillé. Elle m'a beaucoup aidé, parce qu'elle m'interviewait beaucoup.
C'est ça, et vous avez, après, vous avez remis en forme.
C'est ça, mais elle a été un grand.
Il faut lui rendre hommage, elle a contribué.
Je dois ça.
Absolument. C'est chez Fayard, je n'ai que 5 minutes à vous accorder. On le lit vite et avec plaisir. Mais vous voyez qu'on tient largement 1h30 et on n'a pas dit grand chose encore. Daniel Lord, merci beaucoup d'être venu jusqu'à
merci.
Nous.
Merci
et
à vous.
Je vous conseille d'essayer de finir vos livres.
Écrire.
Il faut, voilà, les écrire ou les publier. Il ne faut pas avoir de regrets, laisser derrière vous dans les tiroirs. Essayez de faire ça, que ça soit votre motivation
vous êtes
maintenant.
Comme tout, vous me donnez du courage.
Allez, on y croit.
Vous me donnez du courage.
Merci Daniel. Pardon, j'ai failli
j'enlève
détruire.
Ça.
Oui, on n'est pas pressé. On dit au revoir. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio
merci à vous
Courtoisie.
Beaucoup. De
merci
m'avoir reçu si
à nos
gentiment.
Auditeurs, je vous en prie. Merci beaucoup, amusez-vous bien, bon week-end. N'oubliez pas de lire, c'est vital.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou, diffusé en direct ce samedi 5 septembre 2026 sur Radio Courtoisie de 18h à 19h30 et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.